journal. Bonjour Laurence Thomas.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Dans l'actualité ce matin, le verdict du procès d'Air Cocaïne. 7 des 9 accusés condamnés à des peines allant jusqu'à 18 mois de prison. Les pilotes incriminés écopent, eux, de 6 ans de réclusion.
Soupçonné de dizaines de viols sur des enfants en Asie, un professeur de français arrêté à Besançon. Et puis le Rwanda commémore le génocide de 1994. 800 000 morts, un traumatisme pour les survivants.
Les invités à partir de 8h20, ils seront deux, les deux journalistes, Christian Cheneau et Georges Malbruno. Ils rédigent une nouvelle enquête, Qatar Papers, c'est paru aux éditions Michel Lafon.
France Inter.
Retour en prison pour Bruno Audos et Pascal Forêt. La cour d'assises spéciale a condamné à 6 ans de prison les deux pilotes de l'affaire Air Cocaïne, affaire de trafic de stupéfiants par avion entre la France, l'Équateur, la République dominicaine. Des peines allant jusqu'à 18 ans de prison ont été prononcées à l'encontre de 7 des 9 accusés. Marie-Christine Loriol.
Le visage fermé dans une colère contenue, Éric Dupond-Moretti, qui défendait les deux pilotes, a quitté le palais de justice sans dire un mot, tandis que les familles et les proches effondraient, crier leur incompréhension à l'image de Vincent, le fils du patron de la société qui opérait le Falcon 50.
C'est un scandale, c'est pas normal. On a critiqué la République dominicaine, mais on fait ni plus ni moins la même chose qu'eux. Ils sont des casiers vierges, vierges.
Ce ne sont pas des voyous, renchérissait maître Thierry Fradet, dont le client, un ancien douanier qui avait apporté son aide aux trafiquants, a été condamné à une peine supérieure aux réquisitions et qui, selon l'avocat, ne correspond à rien.
Il n'y avait pas de preuves, il y avait de quoi acquitter très largement la plupart des accusés. Et le niveau de répression qui a été atteint et le niveau de répression qu'on a l'habitude de voir pour de la criminalité organisée, ce qui n'était pas le cas dans cette affaire.
Deux seconds couteaux ont été relaxés, une satisfaction pour maître Romain Calen, mais un sentiment très partagé sur l'issue du procès.
C'est la fin d'un calvaire judiciaire pour Henri Bartolo. On le demande depuis tant de temps et on l'obtient, enfin. Mais c'est vrai que j'ai aussi une pointe vraiment d'amertume pour d'autres qui ont été condamnés ce soir.
Solidairement, tous les condamnés devront régler une amende de 3 millions d'euros. Aix-en-Provence, Marie-Christine Loriol, France Inter.
L'histoire de ce professeur à présent, il a 51 ans, l'histoire de ce professeur de Besançon, mis en examen pour viol et agression sexuelle sur mineurs, notamment mineurs de 15 ans.
L'homme enseignait le français à Singapour, il est soupçonné d'avoir violé, agressé de nombreux mineurs en Thaïlande, en Malaisie, aux Philippines, en Inde, on parle d'une cinquantaine de très jeunes garçons. Selon le journal Le Parisien qui révèle l'affaire, il avait déjà été interpellé le 4 février à Bangkok, où deux adolescents avaient été retrouvés dans sa chambre d'hôtel. Il avait été relâché et avait récupéré son passeport. Mais son cas aurait été signalé à la justice française par l'ambassade de France en Thaïlande. Il faut dire que réussir à interpeller les personnes suspectées de tourisme sexuel est assez rare. C'est ce qu'explique Armelle Le Bigot-Mako, présidente de l'association Agir contre la prostitution des enfants.
Les affaires à l'étranger sont des affaires très compliquées qui prennent énormément de temps. Et malheureusement, il arrive que les fameux prédateurs passent à travers les mailles du filet. Donc, c'est vrai que des affaires comme ça, il y en a finalement très peu parce que la police manque de moyens, parce que diligenter des policiers à l'étranger, ça coûte beaucoup d'argent et que voilà. Donc, j'allais presque dire qu'il y a une forme d'impunité de ces gens qui finalement sont souvent très bien organisés et surtout très bien organisés localement et sur place parce que en général ils font bénéficier de moyens importants. Ils soudoient les gens qui après leur livreront ou leur mettront à disposition des enfants. Donc ça peut prendre des années avant qu'on s'aperçoive que en effet derrière ces soi-disant donateurs généreux il y a des malades qui se cachent.
Propos recueillis par Delphine Evenou. De lourdes peines en appel hier au Maroc contre Nasser Zefzafi. La cour de Casablanca maintient la peine de 20 ans de prison ferme à l'encontre de l'instigateur des événements d'Alhucema en 2016-2017. Nasser Zefzafi s'était imposé comme le visage de la contestation populaire au Maroc. Il est accusé de complot visant à porter atteinte à la sécurité intérieure. En Arabie Saoudite, campagne de répression massive contre des personnalités de la société civile. 9 écrivains, universitaires, blogueurs, dont 2 ressortissants américains, ont été arrêtés lors des organisations de défense. C'est ce qu'annoncent les organisations de défense des droits de l'homme.
25 ans après, l'horreur du génocide rwandais est toujours difficile à décrire et à comprendre.
Les témoignages commencent seulement à se lire. Certains commencent à raconter le calvaire de ce qu'ils ont vécu. Parmi les livres qui reviennent sur cette histoire, celui de ce jeune Rwandais qui publie « Ma mère m'a tué » aux éditions Hugo & Doc. Nathanaël Charbonnier a rencontré son auteur.
Il s'appelle Albert Nsanji Mana, il avait 7 ans en 1994 et 32 ans aujourd'hui. Il est né d'un père Tutsi et d'une mère Hutu et son histoire illustre combien ce qui s'est passé au Rwanda est impossible à imaginer.
Comme je le dis, c'est vraiment difficile. Comment imaginer qu'une mère emmène son enfant pour être tué ?
Et d'expliquer encore que sa mère a fait pareil pour son frère, elle les a emmenés tous les deux vers les machettes des Hutus pour qu'ils soient tués. Et même lorsqu'il a revu sa mère lorsqu'elle était en prison, il n'a jamais eu d'explication sur ce geste insensé.
Si elle était encore en vie, j'aimerais lui demander pourquoi elle a emmené son fils se faire tuer.
Alors bien sûr, Albert s'en est sorti avec de la chance, beaucoup de chance, et lui ajoute aussi avec l'aide des cieux.
J'aime regarder le ciel et quelquefois je me dis que je crois en Dieu.
Pour approcher le génocide rwandais, il faut à la fois regarder les 800 000 morts de 1994, mais aussi le Rwanda d'aujourd'hui. Hutu et Tutsi vivent à nouveau ensemble et cela n'est possible pour Albert que s'il y a pardon.
La première chose, si vous voulez être libre dans votre cœur, c'est de pardonner aux autres.
Et Albert Nsanji Mana de conclure en expliquant qu'il croit plus que jamais en son avenir et en celui du Rwanda.
Nathanaël Charbonnier. Les secteurs des Champs-Élysées, la place de l'Étoile, l'Assemblée nationale interdit aux manifestations pour cet acte 21 des Gilets jaunes. À Paris, deux rendez-vous ont été déclarés en préfecture, Rémi Brancato.
Le dispositif est un peu moins important que la semaine dernière à Paris. 15% d'unités mobiles en moins, police et gendarmerie confondues, selon nos informations. Un peu plus dispersées sur le territoire national, 90 unités de gendarmes et de CRS sont mobilisées. C'est désormais une habitude, il est interdit de manifester dans le secteur des Champs-Élysées. Plusieurs villes interdisent d'ailleurs les rassemblements dans leur centre, Toulouse ou Caen par exemple. Alors même si certains appels ne précisent ni les lieux ni les heures dans la capitale, deux manifestations et deux rassemblements ont tout de même été déclarés. À 13h, place de la République, un cortège qui doit notamment rejoindre le quartier d'affaires de la Défense pour dénoncer l'évasion fiscale. En région, des manifestations sont prévues à Rouen, Lille, Lyon, Nice ou encore Bordeaux. Et la ville de Saint-Nazaire devrait être particulièrement fréquentée avec la deuxième assemblée des assemblées, réunion nationale où l'on attend 700 gilets jaunes. Avant, peut-être un regain de mobilisation avec des appels à des rassemblements nationaux à Toulouse dans une semaine et à Paris le 20 avril.
Rémi Brancato. Le parc Astérix a 30 ans et pour marquer cet anniversaire, une nouvelle attraction, attention, menhir. Un théâtre de 300 places avec un film en 4D, images, son et odeur. Le parc a beaucoup investi ces dernières années avec l'ouverture d'un nouvel hôtel de 150 chambres. Il faut dire que le secteur des parcs de loisirs en France se porte plutôt bien, comme l'explique Arnaud Bennett, le président du syndicat national des espaces de loisirs et d'attractions.
C'est un secteur qui investit entre 10, 20, 30% de son chiffre d'affaires chaque année. Beaucoup d'entreprises en France sur le secteur des parcs de loisirs, accueillent chaque année des clients qui leur sont pour beaucoup fidèles, puisque le taux de fidélisation est en moyenne autour de 70-75%. Cette habitude de créer des nouveautés crée l'envie de revisiter les parcs et permet de fidéliser au mieux cette clientèle. La France est richement dotée en parcs de loisirs, hein, que ce soit des parcs d'attractions, des parcs animaliers. Ça représente aujourd'hui 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 63 millions de visiteurs par an. C'est quelque chose de très très important avec une progression qui est constante. Les gens aujourd'hui visitent davantage les parcs qu'ils ne le faisaient il y a 10 ans, notamment dans un climat un peu anxiogène. Ces endroits qui sont des endroits sécurisés, où la famille et toute la tribu peut se retrouver, ces produits correspondent parfaitement aux attentes de ces familles. Maintenant, si vous me posez la question de savoir si effectivement il peut y avoir d'autres très très gros projets en France, dimension internationale, là, ma réponse sera moins affirmative, parce que créer aujourd'hui des projets gigantesques en France en espérant avoir un retour sur investissement est quelque chose qui est beaucoup plus délicat.
Le Mac & Peace devient enfin éco-responsable. Passage obligé des touristes à Bruxelles. La fontaine avec son petit bonhomme en train d'uriner cachait un problème de tuyauterie que personne ne soupçonnait. Il utilisait tout de même 1500 à 2500 litres d'eau par jour. C'est quand même la consommation de 4 à 5 ménages bruxellois. Eh bien, c'est désormais réparé. Le Mac & Peace fait désormais pipi en circuit fermé.
C'est une histoire de sonde, votre affaire, là. Merci, c'était le journal de Laurence Thomas. Le temps.
La météo avec Gautier, le fabricant français de mobilier contemporain qui met de la vie dans les espaces, salons, séjours et les chambres pour petits et grands.
Jean-Michel Golinski, ce sera meilleur du nord jusqu'au nord-est.
Ah, tout à fait Eric, avec une France coupée en deux aujourd'hui, un temps calme et relativement ensoleillé pour les régions du nord au nord-est, donc au nord d'une ligne passant par Saint-Malo, Orléans, Lyon, et une ambiance perturbée plus au sud et à l'ouest, avec ce matin pas mal de pluie du golfe du Lion au sud du Massif central et sur la Nouvelle-Aquitaine. En journée, ces pluies vont gagner vers la Bretagne, le centre, la Provence, la Côte d'Azur et la Corse, avec à l'arrière l'installation d'orages entre le sud-ouest et la Méditerranée. Notez qu'il va neiger à moyenne altitude sur tous les massifs du sud et du sud donc des Pyrénées, du Massif central et des Alpes du Sud, que le vent sera très turbulent en basse vallée du Rhône et puis que les cumuls de précipitations seront importants, notamment sur le Haut Languedoc.